d'Arimathée,
ville
des Juifs. Et il attendait lui aussi le royaume de Dieu.
Bravo, génial. Bravo, Caleb, merci. Merci, Caleb. Pas facile, hein, devant une assemblée comme ça. Bravo, Caleb, champion, félicitations. Voilà, et on écoute la suite. J'espère que vous êtes comme ce Joseph qui attend le royaume de Dieu. Merci de venir, Aimé, qui a sa propre Bible.
C'est là, non ?
Ouais, okay.
Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que cela lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils y ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? » et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin » et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Voilà.
Merci beaucoup, Aimé. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a devant toi. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse à nouveau comprendre tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Aide-nous à t'adorer comme tu es digne, Seigneur, et à nous rappeler à quel point ce sacrifice il est énorme. Amen.
On peut se lever pour louer Dieu ce soir. Oh, tu es élevé. Merci pour le sacrifice de Jésus. Nous fêtons sa résurrection aujourd'hui. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Tu es assis à la droite du Père. Et nous proclamons ton nom, le nom de Jésus, celui qui a été élevé. La mort ne t'a pas vaincu. Et tu es ressuscité et tu vis pour toujours. Et un jour, nous allons vivre pour toujours avec toi. Alléluia. Et c'est notre glorieuse espérance. Nous louons ton nom ce soir. À toi l'honneur, Seigneur. Merci Seigneur pour la nouvelle vie que tu nous as offerte. Et nous voulons vraiment en retour t'offrir notre vie et te dire que nous voulons vivre pour toi. Notre raison de vivre est de te louer, t'adorer et de chanter un jour avec toi les louanges, avec les anges et réunis avec toi tous ensemble dans le ciel. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné cette vie éternelle. Gloire à ton nom.
Bonjour à tous. Je vais faire un petit rappel sur la signification de l'offrande, de la dîme et de l'aumône. La dîme, du mot latin decima, dixième, 10%, est une contribution, un impôt spirituel que les Juifs devaient payer pour aider les démunis, les orphelins, les veuves, etc. La dîme d'aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, varie selon les points de vue. Première proposition. Sur le sujet, relate que la dîme était une exigence de la loi de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle reste un modèle de générosité libre aux croyants sans obligation. L'offrande est un don que les fidèles offrent à une divinité pour l'honorer. L'aumône, dans la plupart des religions, l'aumône est considérée comme une offrande à Dieu. Dans 2 Corinthiens 9,7, il est dit « Chacun donne comme il a résolu de son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Pour moi, ma déduction de ma part, car Dieu nous a tout donné pour nous, et par ce geste, nous le redonnons notre amour envers lui en faisant la dîme et l'offrande. Voilà. Alors, à la fin du culte, comme d'habitude, le panier est là-bas. Merci à vous.
Merci beaucoup, Patrick. On va maintenant passer au prêche et je vais prier pour Laurent. Seigneur, je te prie pour Laurent, viens l'inspirer et lui donner les mots que tu veux qu'ils soient dits, Seigneur, et que je te prie que ton esprit puisse venir souffler à travers lui et ouvre nos cœurs pour qu'on puisse être réceptifs. Amen.
Amen. Amen. Tout à l'heure, Catherine nous a dit que le centre, c'était la croix. Cette croix qui est là, qui est vide, puisque Jésus n'est plus sur cette croix, il n'est plus dans le tombeau, ses ossements sont plus là et il a disparu, donc il est sorti de la tombe complètement et d'autres l'ont vu. Ça paraît extraordinaire, mais si vous avez fait attention à la lecture du texte tout à l'heure, les disciples pour eux c'était tellement extraordinaire qu'ils ne croyaient pas que Jésus soit revenu de la mort. Et Jésus a dû faire un acte miraculeux pour que la résurrection, les disciples y croient. Il leur a ouvert l'intelligence. On ne sait pas exactement comment il a fait, mais c'est un vrai miracle. Et toute personne qui ne croit pas à la résurrection alors qu'elle entend le récit de la résurrection de Jésus a besoin que son intelligence soit ouverte. Et peut-être même nous, des fois on se dit « Ouais, c'est quand même dingue cette histoire. Est-ce que vraiment j'y crois ?» Je ne sais pas si ça vous est arrivé de douter. Il y a des bons doutes, il y a des fois des mauvais doutes s'ils s'installent, mais peut-être ça vous arrive de douter en disant « Mais est-ce que vraiment ce qu'ils nous ont écrit là, c'est juste ?» Parce que c'est pas croyable. Donc Jésus a dû leur ouvrir l'intelligence, même à ses disciples, ils ne leur connaissaient pas. Alors ce soir, ma prière, c'est que tous et toutes, on puisse avoir ouverte l'intelligence, qui est un déblocage. Et puis quand je vois ça, je vois un peu une boîte de sardines. Vous savez, autrefois, on avait les boîtes de sardines, puis on mettait une clé. mettait une clé pour tourner la boîte. Là. Vous vous rappelez de ça, les plus anciens? Aujourd'hui, il faut juste tirer l'opercule. Voilà, mais on ouvre comme ça et il y a comme un effort que le Saint-Esprit doit faire dans notre tête et surtout dans nos cœurs pour qu'on puisse croire à ce récit fabuleux, extraordinaire. Et quand tu crois à ça, quand ta foi elle devient vivante et que tu dis « Je crois que Jésus est ressuscité, je crois que Jésus est ressuscité », on a le droit de parler, hein. Allons-y, je crois, si c'est le cas, je crois que Jésus est ressuscité, alors de plus en plus notre foi grandit et notre intelligence, elle s'ouvre. Et on n'aura pas de souci à voir Jésus face à face quand il viendra nous chercher, puisqu'il va, il va revenir. En préparant ce message, je me suis souvenu de quelque chose de dramatique que nous avions vécu en famille, et je pense que même mes enfants ne s'en rappellent pas si je leur ai dit un jour. Donc j'avais à peu près 20 ans, maman travaillait dans un centre social, et puis un jour je reçois un appel de l'hôpital qui me dit « Votre mère a été agressée sur son lieu de travail, venez vite à l'hôpital ». Papa était plus loin que moi, donc je me suis précipité à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu maman méconnaissable, comme quelqu'un qui s'est fait tabasser. Et puis que le visage est tuméfié, donc son visage était complètement rond, des bleus partout, le cou agressé, tout rouge. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais à peine parler. Je la vois encore, cette image, vous savez, ces images choc de la vie, on les retient toute la vie, je pense. Et le médecin arrive, je discute avec lui, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, j'avais appelé mon papa pour qu'il vienne. Voilà, elle s'est fait agresser à son lieu de travail. Un qui bénéficiait de l'aide sociale est venu en furie. Il s'est précipité sur la première employée. Il l'a serrée par le cou, il l'a mise à terre. Malheureusement, maman était toute seule dans ce bureau à ce moment-là, quand cet homme a pénétré. Et en fait, il l'a serrée à son cou. Et elle a juste... On était chrétiens depuis pas très longtemps, les deux. Et elle a juste eu le temps de dire « Jésus ». Puis au même moment, elle m'a raconté ça, où elle disait « Jésus ». Le gars est devenu plus en furie encore. Il crachait. Donc voilà, un gars complètement furibond, quoi, etc. Il a un éclair, ou peut-être c'est Dieu qui a fait ça. Il va bondir et puis il va essayer de prendre de l'argent, trouver de l'argent dans le bureau. Et après, il file, laissant la victime là, complètement, ma maman, complètement meurtrie, blessée. La directrice est arrivée. Voilà, elle a vu ça, évidemment, elle a fait ce qu'il fallait avec les urgences. Et je vous raconte la suite en fin de message tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Ou peut-être juste un élément avant. Quand papa arrive, quelle est sa réaction quand il voit maman, qu'elle est méconnaissable? Eh ben, au début, il est très calme. Et puis après, il y a une colère qui monte parce qu'il se rend compte de ce qui s'est passé. Il se rend compte qu'il n'a pas pu protéger son épouse. C'est réaction normale. Comme comme un homme qui doit protéger les siens, comme une mère qui doit protéger ses enfants. Je n'ai pas pu être là pour la protéger. Voilà, c'était évidemment excusable, mais bref, je sens la colère qui monte en lui, son indignation qui est là, et je me suis dit, ah, s'il le trouve, ce gars, il lui fait la peau. Vous savez, même si papa n'était pas costaud ni baraque, un homme en colère, vous savez ce que ça peut faire. Vous avez été en colère une fois dans votre vie, j'imagine. Vous avez peut-être balancé des objets quelque part. C'est des fois inarrêtable. Et je sens cette colère qui monte. Je dis, papa, calme-toi. Viens, on va prier. On va prier. On a remis ça à Dieu. On a remis la situation au Seigneur. Mais cette colère-là, je l'imagine un peu la colère du Père céleste qui voit Jésus crucifié. Alors on peut dire, nous on connaît l'histoire, mais il a été crucifié, puis c'était le plan de Dieu qui meurt sur cette croix. Mais ce n'est pas parce que c'est le plan de Dieu qu'il n'y a pas eu de colère divine. Vous pouvez savoir que vous allez avoir un rendez-vous important au travail, et puis ça vous empêche pas, même si vous êtes prêt, d'être stressé à l'intérieur ou de ressentir des choses, c'est humain. Et là, en l'occurrence, la colère divine, je pense qu'elle a dû se manifester. Mais au moment où cette colère du Père céleste dans les cieux se manifeste, qu'il est prêt à tout ravager, l'humanité, parce qu'il en a déjà eu l'intention, Jésus prie sur la croix et dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et cette prière prend tout son sens. Jésus crucifié par les Romains, injustement arrêté par les Juifs de son époque, trahi par un de ses amis, Judas, il réussit à faire cette prière alors qu'il est ensanglanté de partout, méconnaissable. Père, son esprit prie à haute voix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et un petit peu après ça, Jésus décède et il meurt. et il meurt. Et vous le savez, et on le fait aujourd'hui, l'histoire ne s'arrête pas là. Juste une petite chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il a deux natures. Alors, on fait un petit peu de théologie. Il a deux natures, Jésus, ces deux natures sont indissociables. La nature humaine, il est venu dans un corps semblable au nôtre, ressentant les mêmes choses, il a eu faim. La Bible nous montre qu'il a pleuré, la Bible nous montre qu'il a dormi. Donc c'était un être humain normal, ni magnifique au niveau physique. On pouvait dire, waouh, celui-là, il est beau comme un dieu. Non, on ne pouvait pas le dire, parce qu'il était normal, quoi. Voilà, personne de son temps, de son époque, même habillé plus ou moins, etc. Un homme normal. Comme vous et moi, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites rarement... Enfin, voilà, on croise les gens, puis on ne fait pas trop attention. Donc Jésus est un homme normal. Ni beauté, ni apparence, qu'on le remarque, nous dit la Bible, physiquement. On n'en sait pas plus que ça. Ceux qui pensent que le suaire, c'est vraiment une représentation du visage de Christ, ben, ça a été prouvé scientifiquement grâce au carbone 14, que ce n'était pas ça. Alors voilà, vous croyez qui vous voulez, je ne détruis pas la foi de quelqu'un, j'espère. Mais voilà, on ne sait pas, et c'est voulu de Dieu, le visage ou l'aspect physique qu'il avait. Mais ce qu'on sait beaucoup plus, c'est la deuxième nature de Jésus, c'est qu'il était Dieu, et il est Dieu, et il est fils ou fils de Dieu. C'est pareil, évidemment. Fils de l'homme et fils de Dieu. Et lorsque Jésus meurt, les deux vont mourir. C'est peut-être surprenant ce que je vais vous dire. C'est plus facile à comprendre que Jésus qui meurt par agonie sur la croix, parce que la souffrance qu'il a vécue ben, fait qu'au moment, au bout d'un moment, le cœur s'arrête tellement la douleur est intense. Jésus meurt, la Bible nous dit, il rendit l'esprit. Mais spirituellement, est-ce qu'il est mort ? Ça me pousse à vous dire que nous sommes aussi avec deux natures, tous les êtres humains. Il y a une nature physique, et on se voit habillé de blanc ce soir, c'est génial, et c'est super, mais à l'intérieur de chacun, il y a un esprit qui est là. Et Jésus avait un esprit, sauf qu'il était de nature divine. C'est la différence avec nous. Et tout être humain qui vient dans ce monde, même le plus petit mignon des enfants qui est là ce soir, il a aussi une nature, un esprit en lui. Et cette nature, elle est séparée de Dieu parce qu'on est enfermé dans le péché. Et Jésus, lui, il n'était pas enfermé dans le péché parce qu'il était fils de Dieu. Ça va, vous me suivez ? Les deux natures, si jamais vous posez des questions après. Voilà. Mais il y a ces deux natures qui sont là. Et la Bible est assez claire sur le fait que Jésus est mort. Et puis ce que je veux vous dire ce soir, c'est Jésus meurt pendant 3 jours physiquement. Son cœur s'arrête de battre. Si vous pouviez pencher votre oreille sur la poitrine de Jésus, le cœur ne bat plus, le pouls n'est plus là pendant 3 jours. Donc ils le mettent dans la tombe à ce moment-là, dans un tombeau. Et 3 jours, son corps, il est mort, quoi. Mort de chez mort. Il n'y a plus aucune vie, plus un cil qui bat, plus rien du tout. Il est bien mort. Mais spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, moi, je crois qu'il est mort aussi. Et quand est-ce qu'il est mort ? Il est mort peut-être à l'instant T où les Romains lui percent des clous son corps. Son esprit, parce que ces clous représentent le mal et le péché de toute l'humanité. Vous voyez toute la crasse de l'humanité, toute la noirceur de cette humanité, le pire du pire. Pensez au pire qu'il y a eu, que vous avez connaissance, soit dans votre vie, soit dans l'histoire de l'humanité. Moi, je pense à la Deuxième Guerre mondiale, je pense au massacre des Juifs, je pense à cette guerre répétition. Tout ça, c'est produit par l'homme, l'être humain, les mensonges que nous avons faits à l'école, les mensonges à nos parents, la pièce de 5 francs que vous avez piquée dans le porte-monnaie de votre maman, je ne sais pas si c'était le cas. Tout ça, toute la crasse qui est là, Dieu l'a vue. Et Jésus, lorsqu'il a été crucifié, il a concentré, attiré toute cette crasse humaine sur lui. Et c'est là qu'il est mort spirituellement. Et spirituellement, il meurt en disant, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que le Père Céleste, il ne supporte pas le péché. Dieu le Père supporte pas le mal et cette crasse et tout ce qui est là dans ce monde, cette noirceur qui déborde, qui est une mare horrible aux yeux de Dieu et à nos yeux aussi. Toute cette noirceur qui est produite par nous, qui vient de notre cœur, eh bien Dieu la supporte pas, mais Jésus la prend sur lui et le Père peut plus accueillir son Fils bien-aimé et à cause de cela, Jésus meurt spirituellement et il est séparé du Père. La terre s'arrête presque de tourner. l'humanité entière sent qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas ceux qui sont autour de la croix. L'officier romain qui en a vu des crucifixions à tour de bras, c'était son métier. La mort est mon métier, si vous connaissez le livre d'un auteur français. Eh bien, c'était son métier. Et il voit cette crucifixion de Jésus. Il dit, mais attends, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi le soleil s'assombrit? Pourquoi la terre tremble? Pourquoi ce rideau dans le temple se déchire? C'est la mort spirituelle qui est là de Jésus-Christ intense, où les anges vivent aussi, voient cela du haut du ciel. Ils voient Jésus, l'agneau de Dieu, qui porte toute la crasse de l'humanité, même, encore une fois, des enfants les plus petits qui sont séparés de Dieu. Jésus meurt à ce moment-là. Et la plus belle histoire, bien sûr, c'est que acte de 24, c'est que la mort ne peut pas le retenir. Parce que tout d'un coup, à un moment donné, la vie va revenir. Mais qu'a fait Jésus pendant ces trois jours? Il y a au moins 5 choses que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est remonté au ciel et il s'est tourné les pouces en disant « Bon, on attend, on va voir ce qui se passe, mais on va faire durer un peu le plaisir, on va voir si les disciples y croient. » Non, il se met au travail. Tu as une suggestion? Exactement. Une des choses que Jésus a faites en esprit, il est descendu dans un lieu qu'on appelle nous « enfer ». Pour les théologiens, c'est le mot grec, c'est le mot Hadès, c'est jamais ceux qui aiment la théologie. L'Hadès, c'est un mot grec. Et on voit que dans les Écritures, ce lieu, c'était un lieu d'attente, un peu comme une salle d'attente où les gens attendaient là, et ce lieu était séparé en deux. Il y avait ceux qui vraiment avaient désobéi à Dieu, et puis d'un autre côté, c'est dans Luc chapitre 16, il y a cette parabole, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Saint d'Abraham. C'est un endroit, le Saint d'Abraham maintenant est vide. Et c'était les croyants de l'Ancien Testament qui étaient là en attente. Un lieu, je pense, de délices, dont on voit cette parabole. Il y a aussi des paraboles sur Internet. Ça me rappelle ce que Jésus avait fait, ce que Gilles avait fait, Jésus, en image. Donc il y a ce lieu où Jésus descend dans ce lieu, et dans 1 Pierre, on voit ce texte, 1 Pierre 3,19, où il est dit que Jésus, il est venu proclamer à ceux qui étaient en prison son évangile. Donc Jésus, le Fils de Dieu descend, il n'a peut-être pas dit beaucoup de mots, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais tout le monde, ceux qui étaient là, désobéissants, en attente, qui n'avaient jamais entendu l'évangile, il leur prêche l'évangile là. Du côté d'Abraham et de tous ceux qui sont avec Abraham, eh bien, ils attendent qu'une chose, c'est que le Sauveur vienne, parce qu'ils étaient en connaissance de l'évangile et de ce qui se passait. Je dis au-dessus d'eux, je ne sais pas exactement où c'était, cet Hadès ou le Saint d'Abraham. Voilà la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il règle des comptes, Jésus, pendant ces 3 jours. Il vient voir le diable. J'image un petit peu, mais Hébreux 2, 14, 15 dit ceci, le dit exactement, plus exactement. En fait, il vient voir le diable et puis lui dit, toi, viens voir. Tu sais qui je suis. Je suis le Fils de Dieu. J'ai vaincu la mort. Donne-moi les clés de la mort. Je prends cette clé. Et le diable, il ne peut que se mettre à genoux, humilié, brisé. Et à ce moment-là, Jésus le dépouille de sa puissance. Le diable avait la puissance de la mort. Entre parenthèses, pour tous ceux qui croient, il ne passe plus par le diable pour être mort une deuxième fois, la mort spirituelle, mais on va directement vers Jésus-Christ. On ne passe pas par la case mort éternelle, mais on vient, donc ce n'est pas trop tard ce soir. Viens à Jésus, saisis l'évangile, parce que toi, tu peux recevoir Christ en toi et avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas rien. Ce n'est pas la mort éternelle, c'est la vie avec Dieu pour toujours, si tu as foi en lui et si tu te repens de tes péchés. Donc ça, c'est la deuxième chose dans Hébreux 2, 14, 15, et puis c'est aussi dit dans Colossiens 2, 14, pour ceux qui prendraient des notes. Je lis le verset 14 d'Hébreux 2. « Ainsi, par sa mort, il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, plus besoin d'avoir peur de la mort. Plus besoin d'avoir peur du diable. Il est défait, il est vaincu, il est dans le camp des vaincus, c'est terminé. Et lorsqu'il te voit revêtu de Christ, d'un vêtement blanc en Jésus-Christ, alors dire, ah, celui-là, je ne peux pas le toucher. Celle-là, je ne peux pas la toucher. Est-ce que Christ est bien en toi? Est-ce que tu as bien reçu Jésus-Christ? Troisième chose que Jésus a faite, il est remonté vers son Père pendant ces 3 jours. Il y a une autre échelle de temps, hein. Il n'y a pas d'échelle de temps dans l'éternité, donc il ne faut pas calculer avec les temps humains. Jésus remonte en esprit, le Fils de Dieu remonte vers le Père. il se fait couronner de gloire et d'honneur. J'imagine les myriades, c'est-à-dire les milliards d'anges qui l'acclament. Il passe, il roule, la Bible nous dit qu'il trace un chemin nouveau. Il ouvre une route nouvelle. La route était fermée. Rappelez-vous Adam et Ève, hein, à cause de leur péché, les anges ont dû fermer l'accès au paradis. Jésus ouvre une route nouvelle. Jésus, c'est un constructeur de route. Une seule route, il a fait. Celle qui mène au ciel, directement, de la terre jusqu'au ciel. Comment aller par cette route ? Aller par Jésus. C'est lui qui, Jésus, c'est le péage, si vous voulez. Jésus, mais il offre la vie éternelle. Jésus, c'est lui qui trace la route. C'est le, comment on appelle ceux qui font les routes là ? Le génie civil, là, ils font des routes. Jésus, il est l'architecte qui fait la route par son propre sang. Comme ça, il trace une route nouvelle. Et donc, quand il arrive au ciel, il se fait acclamer, il se fait prendre dans les bras par le Père Céleste. L'Esprit Saint est là. Ne me demandez pas comment est le corps du Saint-Esprit, j'en sais rien, mais voilà, l'unité, la Trinité est là et l'œuvre de salut est parfaite. Il se fait acclamer. Et puis, à un moment donné, alors que les acclamations ne cessent de continuer, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, le Père il montre l'agenda, il dit, fils, c'est le moment de retourner, juste un petit moment. Et à ce moment-là, Jésus revient sur terre, son corps, le vrai corps qu'il avait, hein, le même corps, il reprend vie, sauf qu'il est un corps glorieux, il reprend vie et il se manifeste à ses disciples. La Bible nous dit que c'est à peu près 40 jours. Pendant ces 40 jours, il mange, il boit, il s'amuse un peu avec eux, il fait des apparitions surprises. Après, il va en Galilée, les disciples essayent de le suivre, mais voilà, il disparaît, enfin, il s'amuse à travers, passer à travers les murs. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire aussi dans la suite. Il y a un petit peu de jeu comme ça. Il les confronte quand même à leur incrédulité, Aimé l'a bien lu tout à l'heure. Et puis, Jésus, il est là devant eux, il ne croit pas, puis il dit, mais regardez mes mains, c'est moi. Regardez mon côté. Il y a quelques jours, la cicatrice est encore là. J'ai été percé. Il y a du liquide. Les médecins, ils savent ça. Hein, quand il y a une souffrance, pareil, qu'il y a du liquide pleural, je crois que ça s'appelle comme ça, qui coule, avec mélangé de sang. Donc, c'était bien la cicatrice, c'était ça. Puis, au même moment, les yeux s'ouvrent. Les yeux spirituels des disciples. Ouais, c'est lui. C'est le bon. Puis après, Jésus, un peu pour s'amuser, il fait encore quelques miracles. Allez, un petit pique-nique en Galilée au bord du lac. Il claque des doigts, je ne sais pas si c'était comme ça, mais à peu près. Et puis là, il y a un super pique-nique avec du poisson frais, avec du pain. Voilà, donc il fait un peu comme ça. Et puis, il prend une bonne partie pour faire des réunions. Donc, comme aujourd'hui, c'est comme s'il était là, Jésus. Et puis, il enseigne ses disciples. Il leur parle du royaume de Dieu, parce qu'il y a des choses qu'il faut... J'allais dire enfoncer le clou, peut-être. Il y a des choses qu'il faut dire et il les briefe pendant 40 jours sur la suite. Et puis la suite, ça sera dans 50 jours qu'on en parlera à l'ascension. Je reviens à mon histoire du début. Que s'est-il passé dans notre famille ? Lorsque j'étais à l'hôpital, donc papa arrive, j'essaie de calmer, on prie ensemble, la présence de Dieu s'est manifestée dans cette chambre. Il y a eu un miracle que j'ai vu de mes yeux et que maman a constaté. Alors qu'avec papa, nous prions, il y avait juste pas de médecin à ce moment-là, on a posé nos mains tout près de maman, son visage, en quelques minutes, s'est mis à dégonfler. Donc, il faudra qu'elle soit là pour vous le dire, mais son visage a dégonflé, voilà, tout doucement, et assez rapidement, en quelques jours, ses blessures, ses coups sont partis. Pendant quelque temps, les marques au cou sont restées quand même, parce que l'homme vraiment l'a serré par le cou, puis c'était moins une quoi qu'elle y passe, maman. Donc voilà. Et puis après, il y a tout ce qu'il faut gérer. Il y a l'aspect médical, mais il y a quand même tout ce qu'il faut gérer. Le combat avec l'amertume, le ressentiment. Si vous avez été agressé, peut-être que vous avez une fois de la haine contre votre agresseur. Des fois, vous arrivez à pardonner. Des fois, ça revient, etc. Donc il y avait tout ça. Qui était là. Et puis, il y a l'aspect judiciaire aussi. L'aspect judiciaire, parce que cet homme, il a été retrouvé, il a refait des problèmes, il a été retrouvé, il s'est fait arrêter. Et puis, il y a eu confrontation au tribunal. Maman était là, confrontée à son agresseur, qui était là. Et puis, à un moment donné, on lui donne la parole à maman. Elle était donc face à son agresseur. Et elle a été animée de l'amour de Dieu. Et elle lui a donné son pardon. Elle lui a donné, c'est beau cette histoire. Elle lui a donné son pardon à cet homme. Et je ne sais pas comment il y a réagi, mais c'est maman qui m'a raconté ça ce jour-là. Moi, je n'étais pas là à la séance. Mais de vive voix et devant, je ne sais pas si c'était un juge, j'imagine oui, elle a donné son pardon à cet homme-là. Voilà. Et je crois qu'elle est, dans mon esprit, il me semble qu'elle est retournée à Bonneville, à la prison, pour aller le voir après. Donc, quel beau témoignage, quoi. Elle a entièrement pardonné, bouclé la boucle. Et j'aimerais juste terminer en disant ce soir que la boucle est bouclée, Jésus est ressuscité. Le Père qui a vu ce qu'on a fait à Jésus, on l'a tous mis à mort spirituellement, on l'a tous crucifié par notre péché. Le Père nous voit à travers Jésus maintenant. La Bible nous dit que Jésus maintenant est homme, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il se met entre le Père et nous. Et il est là de temps en temps au Père, peut-être, j'imagine comme ça, il montre ses mains au Père céleste et dit « Père, retiens encore la colère, regarde ce que j'ai fait pour eux. Regarde, il y en a plein qui sont sauvés. Il y en a plein, l'Église grandit dans le monde, hein. Il y a des millions de gens qui sont sauvés, des millions par jour. L'Église grandit, il y a beaucoup de gens qui peuvent revêtir des toniques blanches grâce à ce qu'a fait Jésus. » Amen. Merci Seigneur parce que tu es revenu de la mort. Il n'était pas possible qu'elle te retienne. Merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si ce soir quelqu'un n'a pas vraiment compris ce que Jésus a fait pour lui à la croix, j'aimerais juste lui redire, Christ est mort pour toi. Il a porté ton péché, tout le mal que tu as fait, toute la violence que tu as faite, que tu as dite, que tu as pensée, tout le bien que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, tout le mal que tu as commis en acte contre quelqu'un et peut-être sa tronche dans ta conscience. Jésus est mort pour ça. Il faut que tu viennes à lui. Il faut maintenant que tu donnes ta vie à lui et que tu lui demandes pardon. Parce que le seul moyen d'être pardonné, ce n'est pas que tu fasses des bonnes œuvres, ce n'est pas que tu te rattrapes dans ta vie, mais c'est que tu viennes à Jésus et que tu lui demandes pardon. Et lui te pardonnera. Il fera grâce. Sur la croix, il y avait un brigand à côté de lui qui lui a demandé pardon. C'était moins une, mais il a été pardonné. Alors ce soir, imagine-toi que tu es en train de mourir. Imagine que c'est ta dernière seconde de vie. Il faut vite que tu viennes à Jésus-Christ pour avoir cette vie éternelle qu'il t'offre. Elle est gratuite, elle est offerte. Il n'y a pas besoin d'allumer des cierges, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce salut, il est gratuit. Et ce soir, si c'est ton cas, accepte-le, je t'en supplie ce soir, mais accepte Jésus-Christ comme le sauveur de ta vie et l'unique sauveur. Il est là tout près de toi, il se tient à tes côtés. Il est là, tu peux ouvrir ton cœur à sa présence. Peut-être l'Esprit Saint te montre des péchés que tu as faits, des choses que tu as commises, c'est normal qu'il te montre ça. C'est ce qui a fâché Dieu, c'est ce qui l'a attristé, parce qu'on peut attrister Dieu par notre péché, tu l'as compris. Alors je t'invite vraiment à confesser dans ton cœur, à avouer tes fautes, à le faire même pendant plusieurs jours si nécessaire avec un pasteur ou un ami chrétien qui va pouvoir te conduire à Jésus-Christ, te conduire à recevoir le pardon. Et ce soir maintenant aussi, en parallèle, mets ta confiance en lui en disant dans ton cœur, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Toi seul peux me sauver. Viens me délivrer du mal que j'ai commis. Viens laver ma conscience. Viens m'aider à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Quand j'ai été tortionnaire, Seigneur, aide-moi à réconcilier. Aide-moi à être un ouvrier de paix là où j'ai besoin, là où il y a des choses à rattraper avec ton aide. Et je reçois ce soir ton pardon. Par la foi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et Père Céleste, pour tous les bien-aimés qui ont fait cette prière ou qui la feront plus tard, je prie que tu leur donnes à ce moment-là l'assurance du salut, la paix intérieure par le Saint-Esprit, qu'ils puissent pleinement saisir l'œuvre que tu as faite à la croix ainsi que la résurrection. Amen. 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 Si ces choses ne sont pas encore claires pour vous, c'est la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Discutez avec quelqu'un qui est plus à l'aise dans les choses de Dieu, n'hésitez pas. Et puis, pour tous ceux avec qui vous êtes à l'aise avec ce message, partageons-le encore plus autour de nous, faisons part de cette bonne nouvelle. Je lis un dernier verset, et après quoi on pourra prendre la Sainte Cène ensemble, qui nous rappelle ce que Jésus justement a fait. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est dans Romains 8, verset 34. Et c'est juste précédé, qui les condamnera ? Si nous sommes en Christ, qui nous condamnera ? Qui ? Vous êtes ressuscité. Alors, je vous invite, on va faire un petit peu les choses différemment, soit pour la Sainte Cène, dans le sens que vous avez votre petit godet, comme ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est en deux parties. Vous enlevez délicatement la première partie et vous avez ce qui représente le corps de Christ. Voilà, il faut un peu des ongles pour l'enlever. Voilà. Puis après, il y aura la deuxième opercule avec le jus de raisin. Donc c'est le seul moyen qu'on a pu trouver pour prendre la Sainte Cène de manière hygiénique en ce moment, mais on se réjouit d'avoir du vrai pain un jour. Voilà, et nous allons prendre le repas du Seigneur debout. Donc je vous invite à vous lever. Et ce soir, je lirai juste le texte de 1 Corinthiens 11 qui a été écrit par l'apôtre Paul et qui a eu ces choses par révélation. C'est exactement ce que Jésus avait fait. Donc Jésus avait institué ce repas et puis Paul, qui n'a jamais connu Jésus, autre que par révélation ou vision, eh bien, il a vu aussi la Sainte Cène et voici ce qu'il en dit. C'est dans 1 Corinthiens 11. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu. Et il a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. » Donc nous pouvons prendre l'hostie et prendre ici et manger ce pain qui nous rappelle donc le corps de Jésus-Christ. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors Seigneur, nous nous rappelons l'alliance que tu as faite avec nous par ton sang qui a coulé. Je suis d'accord avec cette alliance et si c'est votre cas, vous pouvez prendre ce jus de raisin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que je peux demander à deux personnes dans l'assemblée d'élever leur voix puis de remercier ce que a fait notre Seigneur ? Amen. Amen.
Je te donne la gloire, Père, parce que tu as donné ton Fils bien-aimé et tu l'as vu mourir. Je te rends grâce, Jésus, pour l'amour que tu as eu pour tous, pour nous tous, et pour ceux qui sont crucifiés, tu l'as aussi vu par ton nom. Merci, Père. Merci, Fils. Au nom de Jésus.
Amen. Un grand merci à notre Seigneur. Et accrochez-vous pour la suite.
Alors maintenant, on va passer à un temps de jeu et on va faire un quiz sur la résurrection. Et donc, on va avoir besoin de, on va avoir besoin de nos téléphones. Donc, si vous pouvez sortir vos téléphones. Et vous pouvez jouer, si vous voulez, par famille, si vous n'avez qu'un appareil, si c'est plus simple. Vous pouvez jouer tout seul aussi. Et à la fin, il y aura des cadeaux pour les 3 vainqueurs. Donc, soyez rapides, soyez bons. on va... Samuel, tu peux mettre le site. On va utiliser... Vous pouvez aller sur Internet. Et vous pouvez aller sur le site www.kaout.it. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un quiz sur des questions de la résurrection. Et en fait, vous allez utiliser vos téléphones pour répondre aux questions. Et donc, voilà. Si vous n'avez pas de téléphone, moi j'en ai 2 en plus qui sont connectés. Donc, Myriam, tu veux ? Ok. Du coup, Kaout, K-A-H-O-O-T. Super, il y a déjà des gens qui sont inscrits. Et donc, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez mettre le code PIN du jeu, là, 699903. 9003. J'ai mon deuxième iPhone, s'il y a quelqu'un qui veut. Quelqu'un a besoin ? Oui.
J'arrive.
J'ai une tablette qui veut jouer. Tu veux ?
Trop bien. Donc après, une fois que vous avez rentré le code, ils vont vous demander un pseudo. Donc vous pouvez mettre votre nom et votre prénom, ou le groupe, enfin la famille ou le groupe avec lequel vous voulez jouer. Si vous avez fini et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui galère à côté de vous, vous pouvez l'aider. T'as besoin d'aide ? Ouais. Ouais. Qui c'est qui a besoin encore de temps ? Et si vous avez fini, vous pouvez voir votre nom à l'écran. Enfin, je pense que c'est un peu trop grand parce qu'on est beaucoup, mais... C'est bon ? Ok, vous êtes prêts ? Du coup, le but, c'est de répondre juste aux questions. Ça va être des QCM. Du coup, vous pourrez choisir entre 4 ou ça va être des vrais et faux. Et donc, il faut être le plus rapide, mais d'abord le plus juste quand même. Parce que si vous faites faux et que vous êtes rapide, c'est quand même moins de points, quoi. Donc, le plus juste et le plus rapidement possible. Et ça va faire une grille des meilleurs, quoi. Et donc, on aura 10 questions. Donc, ce qui va se passer, c'est que la question, elle va apparaître sur l'écran. Et avec votre téléphone, vous pourrez répondre comme une télécommande. Donc, voilà, on peut commencer. Sam, on y va? La première question, c'est un essai, comme ça, on se chauffe. Ok, vrai ou faux? Jésus a dit, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Alors, vrai ou faux? Encore 30 secondes à peu près. C'est bon, vous avez tous répondu? Trois, deux, un. Ah, il y en a quand même qui ont fait faux, hein. Mais c'est déjà bien. Bon, super. Alors, maintenant que vous avez bien compris, on passe à la deuxième question. C'était vrai, hein. Ah, il y en a certains. Ouh, Mathias. Bravo, les premiers, super rapides. Mathias, Youssef, les Dipi, Erika, les Rossel. Allez, on continue les autres. C'est bon, tu peux passer. Qui est la première personne à rencontrer le ressuscité? 1. Jean le disciple bien-aimé. 2. Pierre ou Marie de Magdala? Hé, hey, soufflez pas, hein. Oh, vous êtes rapide, 20 réponses déjà. Je pense que tu peux passer, Sam. On a presque tout le monde répondu. Ouh, presque tout le monde a fait juste. Donc, c'était bien Marie de Magdala. Le classement. Ah, les 10 pistes sont remontées. Mimi, Youssef, Morgan, Erika. Trop bien. Prochaine question. Combien de personnes Jésus a-t-il ressuscité pendant son ministère sur Terre? 1, 2... 3 ou 4? Ah, ça demande un peu plus de réflexion. Allez, on est rapide cette fois. 20 réponses, 21. C'est bon, vous avez répondu? Ok, on peut passer, Sam. La réponse, c'était 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait les 3? Vas-y, Carla, on t'écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la fille. Ah, ok. Ok. Super. Prochaine question. Oh, les dupes. Mathias. Bravo. Youssef, Aimé. Bravo, t'es dans le classement. Rose et Caro, Mimi. Mathias, là, 3 réponses bonnes. Il est en tête. Allez, prochaine question. Quelle a été la réaction des femmes dans l'évangile suite à la découverte du tombeau vide ? 1. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. 2. Elles sont allées parler aux apôtres. 3. Elles annoncèrent la résurrection de Jésus. C'est bon ? On peut passer. Alors la réponse, c'était « Elles sont allées parler aux apôtres. » 17 personnes qui ont juste « Bravo !» Vous pouvez vous applaudir. Ouh, Mathias ! Il lit trop vite, c'est pour ça. Youssef, Anto et Carla, ouh, dans le classement. Aimé et Lady P. Quoi ? Ah, je n'avais pas vu. Prochaine question. Dans Jean chapitre 21, Jésus apparaît au bord d'un lac et prépare un repas pour les disciples. Qu'est-ce qui est au menu ? 1. Du pain et du vin. 2. Du pain et du poisson. 3. Des poissons. Ah, vous comprenez bien maintenant, il y a beaucoup plus de réponses rapidement. Sam, je pense que tu peux passer, c'est bon. La réponse était du pain et des poissons. Bravo à ceux qui ont répondu bien. Mathias. Oh non, Youssef, il a dépassé. Mathias, deuxième. Anto et Carla. Oulala, 5 réponses bonnes. Aimé et Morgadex. C'est qui Morgadex ? Elle est dans la salle ou c'est par Zoom ? Ah, c'est là ! Bravo, vous êtes dans le classement, c'est bien. Prochaine question. Après la résurrection, Marie prie initialement Jésus pour le gardien du jardin. Vrai ou faux ? Vite, 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 c'est un vrai ou faux ? C'est bon, vous avez répondu. Yeah, c'était vrai. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont mis faux. Hein. C'était vrai. Alors, à Youssef. Ah, Aurélien et Karine, ils deviennent très bons là. Bravo. Aimé, Anto et Carla, ben, toujours juste. Hein. Qui suis-je ? Petit village proche de Jérusalem où Jésus ressuscité était apparu à 2 disciples. 1. Béthanie. 2. Emmaüs. 3. Bethléem. Je pense que c'est bon ça. C'était Emmaüs. Bravo à ceux qui ont répondu bien. Alors, qui est en tête ? Youssef ! Bravo. Anto et Carla, Aimé, Mathias, Chris. C'est qui Chris ? Ah ! Christian ! Bravo, bienvenue. Ok, prochaine question. La 8e question. Combien de temps Jésus est-il resté sur terre après sa résurrection ? 1. 7 jours, 14 jours, 40 jours, 49 jours. C'est bon. Et c'était 40 jours. Bravo. En tête, Youssef. Trop rapide. Aimé, deuxième, bravo. Mathias, troisième. Christian, quatrième. Et Anto et Carla. Quand Jésus est mort, pendant combien de temps le pays fut plongé dans l'obscurité ? 3 jours, 3 heures, 3 minutes, 3 semaines. Ouh, vous êtes rapide là. Allez, il faut dépasser Youssef, là. C'est beau, je vois ça. 3 heures, c'était... Oh, beaucoup de bonnes réponses. Bravo à tous. Aimé, bravo. 8 bonnes réponses d'affilée. Youssef, Mathias, Anto, Carla, Christian. Ils sont super rapides. Dernière question. Qui est-ce que les femmes rencontrent lorsqu'elles se rendent au tombeau? Des anges, des gardiens, des jardiniers. Ouais. Alors, c'était la dernière question. On va voir le classement final. C'était des anges. Le podium, alors, qui c'est qui gagne? 3e, Mathias, bravo. 2e, Youssef, ouh. Et 1er, Aimé, bravo. Vous pouvez venir devant, les 3 gagnants. Alors, Aimé, Youssef et Mathias, venez, on a un cadeau pour vous. Bravo, bravo. Alors, Aimé, bravo, la première. Tiens, à partager. Ensuite, c'est qui deuxième? C'est Youssef. Ah, une belle boîte aussi. Et Matt, tiens. Bravo encore, merci d'avoir participé. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a un petit cadeau quand même pour tout le monde à la fin. Donc tous ceux qui ont participé et tout, vous pourrez venir à la fin. On a une table et en fait, il y a des stylos qui sont spéciaux parce que c'est des surligneurs pour dans votre Bible en fait. Ils ne marquent pas à travers les pages. Donc, et il y a des petits chocolats, bien sûr.
Bravo. Félicitations, bravo Audrey.
Ça marche? Oui, ça va marcher. Ah. Bravo à elle pour ce jeu, super. Merci beaucoup et bravo aux gagnants. Et donc, comme voilà, on a tous gagné, quoi, quelque part. C'est très bien. Pour la sortie, juste précision, dirigez-vous sans bousculade. Merci, on garde les distances. Je sais que ça fait un peu pénible de dire ça, mais voilà, c'est comme ça. Pour les annonces de la paroisse,